Bonsoir. Edem Kodjo, facilitateur du dialogue politique congolais, a annoncé pour demain mardi les débuts des travaux du comité préparatoire. Il a fait cette déclaration le week-end dernier après la publication par le ministre de la Justice d'une décision portant libération de certains prisonniers politiques. Pendant ce temps, une frange de l'opposition estime que le chef de l'État n'a pas répondu correctement à ses exigences, qualifiant la liste du ministre de la Justice d'une véritable arnaque politique. Comment analyser cette situation? C'est le thème du dialogue entre Congolais de ce lundi 22 août 2016. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Maître Jean-Paul Lumbulumbu, président du Parti libéral pour le développement, PLD en sigle, et les membres de la dynamique de l'opposition. Maître Lumbulumbu, bonsoir.
Bonsoir, Kelly.
François Nzekouye, cadre du PPRD et porte-parole de la majorité présidentielle. Monsieur Nzekouye, bonsoir.
Bonsoir Kelly Kouté, bonsoir aux auditeurs de la radio Capi.
Et Joseph Kongolo, il est analyste politique. Joseph Kongolo, bonsoir.
Bonsoir madame.
Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
C'est demain mardi que débutent les travaux du comité préparatoire du dialogue politique national à Kinshasa. Le facilitateur de ce dialogue, Edem Kodjo, a informé ce lundi les représentants et chefs des missions diplomatiques accrédités en RDC de la tenue effective des travaux ainsi que des quelques avancées enregistrées pour le dialogue. Mais déjà le week-end dernier, il avait fait cette annonce devant la presse et dans son mot des circonstances, Edem Kodjo a remercié le ministre de la Justice et plus particulièrement le chef de l'État pour avoir répondu favorablement au préalable de l'opposition à participer au dialogue. On l'écoute au micro de Jeff Ngoy.
Je suis heureux aujourd'hui de constater qu'un effort extrêmement substantiel a été fourni. Je vous prie, monsieur le ministre, de bien vouloir accepter mes sincères remerciements dès à présent. Je voudrais que ces remerciements aillent aussi au chef de l'État qui a reçu il y a 48 heures les jeunes de la Lucha et qui a promis que ces jeunes seraient libérés. Je vois dans la liste que ceux qui sont concernés sont tous libérés. Et alors, à quand le dialogue? Je vous répondrai tout à l'heure par un communiqué officiel, mais il est d'ores et déjà clair que ce préalable-ci ayant été levé, le dialogue commencera dès la semaine prochaine.
Pendant ce temps, une frange de l'opposition estime que le chef de l'État n'a pas répondu correctement à ses exigences, qualifiant la liste du ministre de la Justice d'une véritable arnaque politique. La Lucha, de son côté, affirme que la liste annexée à cette décision ne reprend pas les noms de tous les membres de la Lucha et des Filimbi qui doivent bénéficier de cette libération, conformément à la promesse leur faite récemment par le chef de l'État à Goma. Claude Imani, un membre de la Lucha, en parle au micro de Guy Maté.
Le ministre a pris un acte tendant à décrisper la situation politique dans notre pays qui prévoyait une liste de 26 personnes qui devraient normalement être libérées. Après, on a constaté que sur cette liste, il n'y avait que 4 personnes qui sont en détention et qui normalement devraient bénéficier de cette mesure. Et les autres là étaient déjà libérés il y a longtemps. Il y a même ceux-là qui ont purgé leur peine. Nous, on a écrit maintenant pour que le ministre respecte la parole d'honneur que le président de la République nous a donnée. Il nous a promis, lors de la rencontre avec la Lucha Goma, qu'il va donner des instructions pour que nos militants soient libérés. Alors, on a constaté sur cette liste Yves Makwambala, Fred Bauma, sont les militants des Lucha et Filimbi. Maintenant, il y a d'autres qui restent à Makala jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de Marcel Héritier, capitaine, Victor Tessongo, Bienvenue Matumo, Godefroy Mwanaboto et Jean de Dieu Kilima.
De son côté, le vice-ministre de la Justice affirme que la mesure de libération des prisonniers est consécutive aux ordonnances du chef de l'État et que tous les détenus éligibles sont en train d'être libérés. Mbosso Kodampoanga ajoute que la liste comporte 26 noms, dont 24 étaient éligibles à la grâce présidentielle. Il est joint au téléphone par Tchengoy.
Le président de la République avait signé plusieurs ordonnances portant mesures de grâce présidentielle. Et beaucoup de compatriotes détenus dans nos prisons sont éligibles à ces ordonnances. Alors, les parquets, les procureurs généraux et tous les procureurs généraux, les gardiens des prisons sont en train de travailler et ont déjà commencé à libérer un grand nombre de compatriotes. Patriotes détenus dans des prisons, certainement ceux qui sont éligibles à ces ordonnances. Ça, c'est une première mesure de décrispation du climat politique. La deuxième mesure concerne la liste déposée par les compatriotes de l'opposition. Cette liste comportait le nombre de personnes telles que présentées par les ministres de la Justice et des Droits humains. Il s'agit, je crois bien, 26 personnes. Et sur cette liste, deux personnes n'ont pas été libérées pour des raisons que le ministre de la Justice a très bien expliquées.
C'était là le vice-ministre de la Justice, François Nzikouye. Vous êtes cadre du PPRD et communicateur, j'allais dire, de la majorité présidentielle. Pensez-vous qu'aujourd'hui les conditions sont réunies pour qu'enfin le dialogue commence avec les débuts de même mardi, comme l'a dit Edem Kodjo, des travaux du comité préparatoire?
Oui, je crois que le moment est venu d'avoir ces dialogues. Nous avons trop attendu depuis la publication de l'ordonnance du chef de l'État convoquant ces dialogues. Et nous estimons que, à quelques mois de la fin du mandat du chef de l'État, il faille que le peuple congolais, par ses délégués, se réunisse, se regarde droit dans les yeux et se dise de quelle manière nous allons gérer ce pays après le mandat du chef de l'État, parce que toutes les personnes raisonnables sont unanimes qu'il est impossible aujourd'hui d'organiser ne fût-ce que l'élection présidentielle dans le délai. Et donc, nous ne pouvons pas attendre que les mandats du chef de l'État arrivent à terme pour commencer à dialoguer, même si, je dois le rappeler, la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur l'issue après le mandat du chef de l'État, parce que il a dit, comme l'article 110 alinéa 2 le dit, le chef d'État reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Et donc, même s'il n'y a pas ambiguïté du point de vue des textes sur la question, il ne manque pas une frange de l'opinion nationale qui estime que le chef de l'État ne devrait pas rester. Et donc, par conséquent, il faut que ceux qui pensent qu'il doit rester et ceux qui ne pensent pas qu'il doit rester doivent se regarder droit dans les yeux, parce qu'il est une évidence qu'à la fin de son mandat, il n'y aura pas un président élu et l'article 13 de la Constitution ne nous permet pas de prendre par la force un pouvoir constitutionnellement reconnu. Et donc, aujourd'hui, il faut que nous puissions avoir un consensus politique. Toute l'opinion, tant nationale qu'internationale, est unanime quant à ce, et donc il faut que la raison prévale sur les sentiments et sur les intérêts individuels pour qu'on y arrive.
Alors, Edem Kodjo annonce pour demain mardi les débuts des travaux du comité préparatoire. Une frange de l'opposition estime que le chef de l'État n'a pas répondu correctement à ses exigences, et donc cette frange dit qu'elle ne participera pas au dialogue. Est-ce que ce n'est pas un autre blocage?
Non, je crois que c'est des faux fuyants. Parce que je dois vous rappeler, Kelly, et rappeler aux auditeurs de la radio Capi, que quand le chef d'État a annoncé l'ordonnance, cette fameuse opposition-là avait déjà envoyé une liste de leurs participants au comité préparatoire, en excluant d'autres opposants. Et donc, cette opposition était prête à aller au dialogue sans condition. Les conditions viennent maintenant. Et ces conditions-là, ils les ont transmises au groupe des soutiens facilitateurs. Et c'est l'ambassadeur de l'Union européenne.
Mais on sait quand même que l'UDPS avait posé des conditions dès le départ lorsque la majorité l'a contacté pour prendre part à ce dialogue.
Non, je vous dis, Madame Kelly, écoutez, l'UDPS a été la première à avoir envoyé la liste de ses participants au comité préparatoire. Et il y a eu un débat dans l'opposition où certains opposants ont estimé que seule l'opposition n'avait pas le droit de pouvoir déléguer les gens au comité préparatoire. Vous rappelez de ces faits-là. Et donc, aujourd'hui, multiplier des conditionnalités, même quand certaines sont rencontrées, ça paraît inopérant. Je pense sincèrement qu'ils ont intérêt à aller au comité préparatoire et poser des conditions résiduelles qui resteraient. Et à ce moment-là, les comités préparatoires pourraient les transmettre aux facilitateurs, quitte à ce que les facilitateurs les transmettent au gouvernement et voir lesquels sont raisonnables. Parce que
mais
aujourd'hui
la libération
encore,
des prisonniers politiques, c'est quelque chose que l'opposition réclame depuis longtemps, M. Ndékoué.
Oui, la confusion persiste aujourd'hui entre prisonniers politiques et politiques prisonniers. Parce qu'il y a des politiques qui sont en prison pour raison des crimes de droit commun ou des crimes non prescriptibles. Notamment, il y a des politiques qui sont en prison pour viol sur mineurs. Je ne vois pas par quel mécanisme le président de la République peut ordonner leur sortie ou des prisonniers qui sont là pour des faits d'avoir extorqué les biens d'autrui. Je ne vois pas en termes de moralité quel message le président de la République enverrait à quelqu'un qui prendrait votre immeuble considéré comme le sien sans en avoir droit et titre. Et donc, c'est des choses de morale qui font que aujourd'hui on ne peut pas se permettre de libérer des personnes qui ont commis des crimes de droit commun sous prétexte d'être politiciens. Sinon, nous demandons à tous les politiciens de commettre des crimes et de dire qu'ils seront toujours couverts parce qu'ils sont politiques.
Merci François Ndékoué, maître Jean-Paul Lumbulumbu, président du Parti libéral pour le développement, PLD en sigle, membre de la dynamique de l'opposition. Vous qualifiez cette liste du ministre de la Justice d'une véritable arnaque politique, vous de l'opposition. Pourquoi? Disons une frange de l'opposition dont vous faites partie.
Merci beaucoup, Madame Kelly. Je voudrais très d'abord saluer les co-débatteurs, notamment l'honorable François Ndékoué ainsi que l'analyste Joseph. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi quand même d'adresser un mot de compassion, de solidarité à la population de Beni, de Boutembo qui passe des moments très, très critiques. Madame, la liste du ministre Thambwe Mwamba, elle est qualifiée d'une véritable arnaque politique à juste titre. Madame, cette liste, elle a été rendue publique le 19 août 2016. Lorsque vous analysez la liste, il y a près de 24 personnes dont les noms figurent sur cette liste-là. Mais nous avons analysé la liste au fond. Au fond, par exemple, en ce qui concerne les noms figurent, parce qu'il y en a qui sont censés être à la prison de Mondlenje. Au nombre desquels, par exemple, M. Chivin Kombi, M. Pascal Dumanine, et cette autre co-détenue dont moi-même j'ai été avocat ici au tribunal de grande instance de Goma, ils ont été arrêtés à Goma, c'était le 28 novembre 2015, jugés au tribunal de grande instance de Goma, ils ont été condamnés à 3 mois de prison, alors que 7 ont été acquittés. J'ai dit bien 7 ont été acquittés et ont été condamnés à 3 mois de prison. Mais ceux qui ont été condamnés à 3 mois de prison, ils ont purgé leur peine et ils ont quitté la prison le 10 mars 2016. Donc c'est en mars qu'ils ont quitté la prison. Là, il s'agit de M. Jovin Kobi et M. Pascal Dimani, mais dont moi-même j'ai été avocat pour le défendre. Alors, lorsque la liste du ministre, lorsque vous lisez l'intitulé, la liste dit les personnes qui doivent bénéficier de la liberté ou la liberté provisoire. Est-ce que ces gens qui ont été acquittés depuis mars, n'est-ce pas, ont-ils besoin de cette liberté-là? Non. Première raison pour laquelle cette liste est une véritable arnaque politique. La deuxième raison, madame, la liste du ministre Thambwe Mwamba a fait croire à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il y a des crispations du climat politique. Il n'en est pas question, madame Kelly. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez cette liste-là, d'ailleurs, elle a induit le facilitateur Eden Kodjo en erreur parce que le communiqué que Eden Kodjo a publié le même jour, c'est un communiqué consécutif à la publication du ministre de Tambwe Mwamba, dans lequel Eden Kodjo tente de remercier le gouvernement pour avoir libéré 24 personnes, alors que tel n'est pas le cas. Et d'ailleurs, madame, à l'heure où je vous parle, les quatre personnes-là qui doivent, qui sont censées être en prison et qui devraient être libérées sont encore en prison en ce moment. Donc, le facilitateur se réfère à la liste. Il fait appel au début des travaux préparatoires du dialogue en se basant sur quoi ? En se basant sur le communiqué du ministre Tambwe Mwamba. Donc, c'est une liste qui a induit.
Et vous auriez préféré qu'il fasse quoi à la place, maître Lumbulumbu ?
Je vous en prie.
J'ai dit, vous auriez préféré qu'il fasse quoi à la place, le facilitateur ?
Les facilitateurs, évidemment, je dis qu'il ne fait pas de sa faute, mais en tant qu'un fonctionnaire international, il devrait se rassurer que la liste des personnes qui sont censées avoir été libérées, les soit effectivement pour qu'ils puissent évoquer cet argument-là comme élément de décrispation du climat politique afin de convoquer le dialogue. Voilà pourquoi, dans notre mémorandum, nous avons d'abord qualifié cette liste de ministres Tambwe Mwamba d'une véritable arnaque politique et nous avons demandé au ministre de reconsidérer sa liste en y insérant les noms de véritables prisonniers politiques, de véritables prisonniers d'opinion grâce à la libération desquels l'on peut dire qu'il y a des crispations.
Et au cas contraire, maître Lumbulumbu, vous boycottez le dialogue ?
Mais c'est clair, mais madame, parce que lorsqu'il faut, il faut parler de la décrispation du climat politique, il faudrait que le gouvernement, par exemple, annonce officiellement la fin des poursuites contre l'honorable Moïse Katumbi. Il faudrait que le gouvernement puisse laisser des compatriotes qui sont à l'extérieur du pays, qui ont à jouer un rôle important dans la crise, de revenir au pays. Je cite le cas de l'honorable Moussa Nyamouchi. Je cite le cas de M. Anzuluni Floribert et tant d'autres qui sont au pays, qui doivent venir participer à ce dialogue si on veut ce dialogue inclusif. Mais si on veut ce dialogue-là, les concertations nationales puissent, je comprends que la majorité présidentielle puisse faire pression sur les facilitateurs, mais malheureusement, les facilitateurs se montrent être en train de jouer le jeu de la majorité présidentielle, chose qui amène l'opposition à se mettre un peu en réserve par rapport à ces dialogues où le caractère inclusif n'est pas assuré et où on est en train de faire des coups bas pour faire croire à l'opinion nationale et internationale qu'il y a eu libération des prisonniers politiques. Jusqu'à l'heure où je vous parle, madame, aucun prisonnier n'a été libéré.
Mais c'est un processus, maître Lumbulumbu.
De nous donner les noms d'un seul prisonnier qui a été libéré jusque-là.
Merci, maître Lumbulumbu, Joseph Kongolero. Analyste politique, comment vous analysez cette situation ?
Bien, merci madame pour la question. Je voudrais saluer maître Lumbulumbu et l'honorable Zikouye. Bien, vous avez senti, madame, que dans les deux interventions, que négocier n'est jamais facile. Et surtout quand on négocie en politique, ça n'a jamais été facile. Ensuite, le contexte dans lequel on négocie ici en République démocratique du Congo complique davantage la situation. Et le moment de cette négociation devient encore beaucoup plus difficile. Alors, ce que je veux dire, c'est que le consensus, dans un processus de négociation, a toujours été fragile en République démocratique du Congo. Et ça, c'est depuis 60, dans toutes sortes de réunions politiques, n'est-ce pas, pour décrisper la situation politique, nous en sortons toujours avec un consensus fragile qui fragilise à la fois l'État, qui fragilise les institutions et par conséquent, qui fragilise davantage, n'est-ce pas, le développement dans notre pays. Et la preuve est encore là. 56 ans après l'indépendance, nous sommes en train de patauger dans les mêmes difficultés. Nous sommes en train aujourd'hui de produire politiquement les mêmes effets, les mêmes causes qui produisent toujours les mêmes effets. Donc, c'est déjà un problème assez sérieux. Mais si on voudrait aborder directement le problème de la liste, bon, il faut dire une chose, est qu'il n'y a pas de preuve de bonne foi de la part du pouvoir aujourd'hui.
Mais le geste du président faire libérer ces jeunes de la Lucha, est-ce que ce n'est pas déjà un pas ?
C'est pas suffisant. Regardez la tâche. Elle est très grande. Les preuves ne sont pas suffisantes pour pouvoir faire avancer la machine. Ça, je l'ai dit. Vous avez suivi ce que Maître Lumbulumbu vient de dire tout à l'heure. Effectivement, il y a des prisonniers qui ont été libérés, qui ont apuré, qui ont pratiquement apuré leur peine, et qui ont été libérés. Et pourquoi, d'abord, quel est cet esprit qui a poussé le ministre à mettre ces gens sur la liste? C'est de la ruse. Tout simplement de la ruse politique. Et ce sont, en fait, dans l'art de négocier, ce sont des comportements, ce sont des choses, parfois, qui font dissiper la confiance entre les différents partenaires. Voyez-vous? Et ça, c'est un problème sérieux. Aujourd'hui, on peut se demander, est-ce que la majorité, est-ce que l'opposition aujourd'hui veulent bien aller au dialogue? Est-ce que vraiment ce dialogue fait partie, franchement, du programme politique, ou si vous voulez, de la stratégie du pouvoir et de la majorité, et de l'opposition? Donc on est en train de sentir qu'à la fois, et l'opposition et la majorité, il n'y a personne qui aime, qui veut le dialogue. Chacun pose des obstacles à sa manière pour empêcher l'espoir que ces choses arrivent. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le plan de l'opposition aujourd'hui, et ça transparaît, on voudrait pousser l'adversaire qui est le pouvoir aujourd'hui à négocier à genoux après le 19 septembre. Et la majorité, toujours dans l'art de subir, parce qu'aujourd'hui c'est eux qui subissent au lieu d'agir, ils veulent absolument que les choses se passent très vite. Et ils induisent le facilitateur en erreur, et très souvent, cette précipitation inconsidérée du facilitateur de ne pas se rendre compte de l'effectivité des choses telles qu'elles ont été faites, demandées, dites, et ils se précipitent vite à faire des déclarations. Cette précipitation inconsidérée, ça rogne davantage, n'est-ce pas, le capital confiance qu'il a de la part des partenaires de l'opposition. Et je crois...
À votre avis, le facilitateur ne devait pas annoncer le début des travaux du comité préparatoire?
Pas tout de suite. Il devait d'abord consulter les partenaires. Voilà, le président devait faire un geste. Parce que c'est ça son travail, au fait. Le président vient de faire un geste. Quelle est votre réaction? Maintenant, nous pouvons programmer. C'est comme ça. C'est ça le travail du facilitateur. C'est pas lui qui va modérer forcément le dialogue. Non, il y a les modérateurs, les commodérateurs de l'opposition de la majorité. Lui facilite tout simplement quand il y a blocage. En fait, c'est à ce moment ici qu'il devait commencer par contacter les différentes parties, n'est-ce pas, et se rassurer qu'ils sont contents, n'est-ce pas, ou qu'ils sont d'accord avec l'ouverture des travaux de... Et cette précipitation inconsidérée, ça diminue, ça rogne davantage, n'est-ce pas, le capital confiance de la part de l'opposition. Et vous savez, dans une négociation, quand un des partenaires n'a pas la confiance du facilitateur, eh bien, il n'y a pas de dialogue.
Alors, il a annoncé pour demain les débuts des travaux, comme je l'ai dit, du comité préparatoire. Il y a la majorité qui est prête, il y a une partie de l'opposition aussi qui est prête à aller à ces travaux du comité préparatoire, et une autre France de l'opposition qui est catégorique, qui demande assez, qui voudrait assez que le président puisse faire plus pour qu'ils acceptent d'aller à ce dialogue. Est-ce que vous pensez que les travaux pourraient s'ouvrir demain, comme l'a annoncé le facilitateur?
Elles peuvent bien, les travaux peuvent s'ouvrir, mais alors, pour quel résultat? Si une bonne partie, n'est-ce pas, de l'opposition n'est pas partie prenante, n'est-ce pas, dans le déroulement des travaux préparatoires de ce dialogue, je pense qu'on risque de revenir sur ce que Maître Lumbulumbu disait tout à l'heure sur les concertations bis. Et à ce moment-là, le résultat, ce n'est pas celui escompté aujourd'hui. Donc, on ne va ni aider à la République
d'amortir. Ça ne sera pas inclusif?
Ça ne sera pas d'abord inclusif. Et en même temps, ça va rouiller, ça va sensiblement influer, n'est-ce pas, le résultat de ces pré-dialogues. Et par conséquent, la décrispation ne sera pas au rendez-vous. Et à ce moment-là, on risque de chuter avec fracas, n'est-ce pas, aux différentes échéances qui sont...
Mais est-ce que les autres revendications de l'opposition, par exemple, ne peuvent pas être évoquées pendant les travaux?
Il n'y a pas, à l'ordre du jour, il n'y aura pas ces points. OK? Dans les travaux préparatoires, il n'y a pas un point à l'ordre du jour sur lequel on va parler des prisonniers politiques. Sinon, on va parler de la nationalité, double nationalité, on va parler de ceci, on va parler de cela. À ce moment-là, on s'enlise. Donc, il n'y a pas un point à l'ordre du jour.
Donc, la question devrait être réglée avant les travaux.
Écoutez, dans l'art de négocier, madame, les choses se passent comme ça. Ça se passe comme ça. Demain, quand la majorité sera dans l'opposition, elle sera peut-être beaucoup plus intransigeante, n'est-ce pas, que l'opposition aujourd'hui. Dans l'art des négociations, ça se passe comme ça. C'est au début des négociations qu'on a besoin d'avoir suffisamment de concessions, n'est-ce pas? Et pendant la négociation proprement dite, donc, on avance. C'est comme ça que ça se passe.
Merci.
Mais je sais encore que c'est une ouverture davantage, n'est-ce pas, à ceux qui font la facilitation aujourd'hui. La CENCO, qui tente d'aider aussi Edem Koyo, d'accroître encore, n'est-ce pas, leur capacité, n'est-ce pas, de conviction, de manière à les mettre ensemble à mettre les deux blocs ensemble.
Joseph, dans le dialogue. François Ndekoué, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Je suis M. Hervé Kanza depuis la ville de Kisangani. Des propos comme tout ce qui est prêt, on peut aller au dialogue, je suis satisfait, montre la partialité de M. Ben Koudjo. Au lieu de demander aux opposants s'ils sont satisfaits, c'est avec surprise qu'on entend que c'est lui qui est satisfait. Si au début du dialogue, c'est la majorité présidentielle et les facilitateurs qui sont satisfaits, alors à la sortie du dialogue, seule la majorité et les facilitateurs seront toujours satisfaits. Comme si M. Ben Koudjo oublie la dimension de ce qu'il est venu faire. La précipitation avec laquelle il convoque le dialogue pousse à prédire une chose. Un dialogue égale à prix dialogue.
Monsieur Ndekoué.
Je crois que l'auditeur et l'opinion oublient qui est demandeur du dialogue. Je vous rappelle qu'à l'issue des concertations nationales, la classe politique de l'opposition a réclamé un vrai dialogue. Et Étienne Tshisekedi, pour ne pas les citer, est celui qui a fait pression pour dire que si les chefs d'État ne convoquent pas les dialogues avant la fin décembre 2015, il y aura problème. Comment pouvez-vous vouloir instamment une chose et en même temps croire qu'il faut donner des conditionnalités pour l'avoir? Ça n'a pas de sens. Et comment critiquer un facilitateur qui, recevant les revendications de l'opposition, du reste, pas lui, c'est le groupe de soutien à la facilitation, qui a reçu, dès l'opposition, après l'entretien, qu'ils ont eu une liste. Et c'est cette même liste, et je crois que vous aurez dû demander à l'ambassadeur de l'Union européenne si effectivement la liste que le ministre de la Justice a présentée est la même que celle que l'ambassadeur de l'Union européenne lui a envoyée. Parce que le ministre de la Justice affirme qu'il n'a libéré que les personnes qui étaient sur la liste lui envoyées par les représentants des groupes de soutien aux facilitateurs.
Alors que certains avaient déjà été libérés depuis longtemps.
Non, j'ai dit, sur les principes. Le ministre avoue cela. Avez-vous interrogé l'ambassadeur de l'Union européenne pour qu'il dise le contraire? C'est là le problème. Entre-temps, les questions techniques de vérification pour savoir si telle personne avait été libérée ou pas, c'est vrai,
c'est quand même
le ministre de la Justice aurait dû le faire, je le reconnais humblement, à son nom. Du reste, je n'en suis pas le représentant. Et donc, mais je suis quand même surpris d'entendre Lumbu Lumbu qui, d'abord, en présentant sa compassion aux populations de Beni Boutembo, que je représente aussi, mais en même temps, il oublie de présenter les compassions aux populations de Rutshuru qui vivent les mêmes calvaires aujourd'hui que ceux de Beni Boutembo. C'est une attitude, à mon avis, partiale. Nous sommes élus de la nation, et surtout quand on est du Nord Kivu, nous devons avoir la compassion vis-à-vis de tous les citoyens du Nord Kivu. De deux, il affirme que les personnes censées être libérées ne le sont pas encore. Il oublie qu'il y a une procédure. Quand un ministre de la Justice signe un document, il y a des services du procureur et il y a les directeurs des prisons qui doivent exécuter. Ça ne doit pas se faire le même jour. Donc, le fait que cela n'est pas encore fait aujourd'hui ne signifie pas que cela ne sera pas fait. D'autre part,
Par rapport au facilitateur, Joseph Kongolo et même l'auditeur a posé la question pourquoi le facilitateur n'est pas allé voir l'opposition pour poser la question, savoir si elle était satisfaite de la décision du chef de l'État.
Pourquoi le facilitateur reviendrait
quel
côté? L'opposition donne une liste au groupe de soutien facilitateur. Les groupes de facilitateurs remettent la même liste au ministre de la Justice, que, je suppose, le facilitateur a eu une copie. Il vérifie, il se rend compte que c'est exactement la même liste qui a fait objet du traitement et a été satisfaisant. En vertu de quoi, dès lors qu'il sait que vous avez demandé une chose, on vous l'a donnée, doit-on venir vers vous encore pour demander satisfaction? Ça n'a pas de sens. À moins que l'on conteste les documents en affirmant que ce document ne viendrait pas de l'opposition. À ce moment-là, il y aurait raison. Mais dès lors que le facilitateur se rend compte que la liste que j'ai vérifiée, c'est exactement la même que l'opposition m'a transmise, à moins que l'opposition ait piégé les ministres de la Justice et les facilitateurs, il n'a aucune raison de revenir vers l'opposition. Et c'est là que j'ai dit que ceux qui pensent que les facilitateurs, ou à la limite les ministres la Justice, a fait de la supercherie ou de la tricherie, comme l'a dit l'analyste ici, ils devraient vérifier au fond quelle est la liste qui est venue de l'opposition et conforter son opinion avec les faits, au lieu d'accuser injustement des personnes sans en avoir des preuves. Et donc aujourd'hui, les facilitateurs...
Est-ce qu'il fallait au dialogue sans cette tranche de l'opposition, M. Ndékouyé?
Non. Vous savez, l'histoire de notre pays est têtue. En 2005, une partie de l'opposition a dit « n'allez pas vous enrôler ». Une partie de l'opposition a dit « n'allez pas voter au référendum la Constitution ». Mais le Congo a fait l'enrôlement, le Congo a voté une Constitution, et c'est ces mêmes franges de l'opposition qui se servent de cette Constitution comme étant arme contre le pouvoir, Constitution qu'ils ont récusée, ils ont considérée qu'ils
volent. Au dialogue sur cette tranche.
J'estime qu'il faille aller au dialogue, parce que d'abord nous sommes à la phase du comité préparatoire. Et donc, pendant que les uns traînent les pieds, il faut commencer par quelque chose. Nous ne devons pas arriver dans une situation où la tension monte et où on ne sait plus à quel sens se vouer. Surtout, nous ne devons pas tomber dans la logique de la violence, parce que la violence ne profite à personne. Si la maison Congo s'embrase, tous les leaders de l'opposition et de la majorité qui ont des visas à longue durée et qui ont des comptes à banque à l'étranger vont aller à l'étranger. C'est la population congolaise qui va souffrir, et nous ne voulons pas que la population congolaise souffre à cause des violences de certains leaders politiques.
Merci François Ndékouyé. Maître Jean-Paul Mboulombo, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kananga.
Dibelaï Norbert à Kananga au Kasaï central. La frange de l'opposition dénommée Rassemblement des forces politiques acquises au changement vient de démontrer sa mauvaise foi en boycottant le début des travaux au dialogue politique, car une différence devrait être faite entre prisonniers politiques et ceux ayant commis les infractions de droit commun.
Alors, cet auditeur rejoint un peu l'analyse de M. Ndékouyé tout à l'heure, de la différence entre prisonniers politiques et politiques prisonniers.
Merci beaucoup, madame. Je vais répondre à la préoccupation de l'auditeur, mais laissez-moi d'abord rencontrer la préoccupation, s'il faut l'appeler l'observation de l'honorable Ndékouyé, qui est notre élu ici à l'Orsibou. Je pense que dans le cadre de cette émission, il a été le premier à prendre parole. En tant qu'élu, il lui appartenait à lui d'abord d'adresser les condoléances et la compassion à la population qu'il a élue, où qu'elle soit. Et que donc la réponse qu'il vient de me faire, elle lui est également opposable. Lui d'abord, en tant qu'élu, moi je ne suis pas encore un élu. Deuxièmement, par rapport à la question de l'auditeur, je partage le point de vue de l'auditeur. Il est vrai qu'il y a, s'il faut rejoindre cette fois-là le point de vue de l'honorable Ndékouyé, qu'il y a des prisonniers qui sont politiques mais qui ont commis des infractions de droit commun. Je pense que dans le cadre de la présence des revendications de l'opposition, nous n'avons pas fait allusion à cette catégorie-là de prisonniers. Nous avons fait allusion aux prisonniers d'opinion. Je voudrais parler des prisonniers de, par exemple, Fred Bauma, Yves Makwambala, Éric Capitaine, tous ces jeunes de la Lucha qui, à cause de leur opinion, sont aujourd'hui prisonniers. Il y en a d'autres, je vais plus loin en disant, qui sont devenus véritablement des otages du pouvoir, parce que je ne sais pas comprendre, par exemple, pour le cas de Fred Bauma, que quelqu'un fasse 17 mois en détention, il n'a jamais été jugé. Ça, c'est vraiment une prise d'otage. Bon, je suis d'accord avec l'auditeur, mais nous pensons que dans le cadre des revendications de l'opposition, il est question de prisonniers politiques et de prisonniers d'opinion, et la liste est assez claire, je crois qu'elle est à plus de 110 personnes. Et pour revenir toujours sur la préoccupation de l'honorable Ndékouyé, mais honorable, laissez-moi vous dire que le ministre Tambwe Mamba, mais ça c'est un chevronné de la matière, c'est un juriste de renom. Je ne vois pas un ministre comme Tambwe Mamba à poser sa signature sur un document sans avoir vérifié si les informations qu'il est en train de transmettre à la communauté internationale sont vraies. Parce que moi, je dis, je les mets au défi de nous montrer un seul prisonnier ici à Goma sur sa liste qui devra bénéficier de cette liberté. Il n'y en a pas, parce que je maîtrise tous les prisonniers dont les noms se trouvent sur sa liste. Il y en a qui ont été acquittés, il y en a qui ont purgé leur peine. Voilà pourquoi je dis et je répète que sa liste est une véritable arnaque politique. Donc, il n'a pas d'excuse. En tant que ministre de la Justice, il doit apprécier l'excellence. Ses services devraient l'aider à vérifier si réellement cette liste qu'il est en train de transmettre à la communauté internationale vaut la peine, parce que c'est sur cette liste que s'est basé le facilitateur Eden Kodjo pour prétendre que, étant donné qu'il y a 24 personnes libérées, il y a des crispations, des crises politiques, de l'espace politique. Et voilà qu'il vient de convoquer le dialogue sur une mauvaise
phase. Et je crois que la communauté internationale, j'ai entendu tel ambassadeur ou tel autre ambassadeur remercier le gouvernement pour avoir libéré les prisonniers, mais c'est archi faux. À l'heure où je vous parle, je confirme, je sais ce que j'ai dit, aucun des prisonniers, même les quatre là qui doivent être libérés, personne.
Alors, vous l'avez déjà dit.
On convoque le dialogue.
Vous l'avez déjà dit, Maître Lumbu. Lumbu, demain, les débuts des travaux du comité préparatoire vont commencer. La majorité est prête. Il y a une partie de l'opposition qui est aussi prête. Donc, vous resterez en dehors de ces travaux. Vous n'êtes pas concerné?
Madame, nous pensons que les dialogues est une vertu républicaine, personne ne peut les refuser, mais ça ne sera pas, on ne devrait pas s'attendre à un résultat concluant alors que nous devons aller au dialogue les mains liées. Lorsque les opposants doivent aller au dialogue avec leurs militants en prison, nous pensons qu'il est du devoir du gouvernement de décrypter effectivement l'espace politique avant de débuter les dialogues, sans quoi la précipitation avec laquelle le facilitateur est en train de conduire le dialogue va nous amener à conclure qu'il joue le jeu du pouvoir et dans lequel cas nous allons déclarer personne non grata en République démocratique du Congo.
Alors, lorsque vous dites qu'il joue les jeux du pouvoir, qu'est-ce qui vous fait, quels sont les éléments qui vous font dire qu'il joue les jeux du pouvoir?
Il joue les jeux du pouvoir, madame, d'abord parce que s'il faut se référer au tout dernier élément, je ne vois pas un diplomate durant de Eden Kodjo à qui on transmet une liste sans avoir vérifié, sans avoir même vu les images à la télévision qui en a qui ont quitté la prison, sans avoir rien vu, et il prend un communiqué, il publie un communiqué, et il ovationne même le gouvernement d'avoir libéré 24 personnes.
Mais puisque la liste qu'on lui a remis, que la liste qu'il a reçue du ministre de la Justice, c'est cette même liste qui lui avait été remise par l'opposition.
Cette liste, elle avait été remise par l'opposition, elle date de quand? Madame, parce que je vous donne le cas de Goma. Moi, je suis très concret dans ce que j'ai dit. Je vous donne le cas de Goma. Les militants de la route ont été poursuivis, c'était dans le RP, je me rappelle, 24 août 1954, pour violation à la liberté de manifestation. Ils ont quitté la prison le 10 mars 2016. Si cette liste qu'on a transmise à la communauté internationale, elle date d'avant 2016, plutôt d'avant mars 2016. Il revenait, n'est-ce pas, au ministre de la Justice d'actualiser la liste. C'est la raison pour laquelle, dans notre mémorandum, nous avons demandé au ministre de reconsidérer, ça veut dire de recommencer et actualiser la liste avant de la transmettre aux facilitateurs pour qu'il
soit transmis
comme élément de l'équipation du climat politique.
Merci, Maître Lumbu. Joseph Kongolo, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient encore une fois de Kananga.
C'est Jean Tissoumou, je vous appelle depuis Kananga. Le peuple congolais doit comprendre que l'heure n'est pas à l'aventure. Nous devons passer au dialogue qui est convoqué par M. Eden Kodjo. L'opposition et la majorité doivent nous aider à la bonne passation de ces derniers car ce sont eux les véritables acteurs. La question des prisonniers est majeure et fondamentale, mais il n'y a pas la volonté. Faudra-t-il attendre jusqu'à quand le sang des Congolais coule tous ces jours? Arrêtons cette hémorragie pour sauvegarder la paix. Eden Kodjo ne doit pas céder à cette aventure, qu'il sache qu'il a transporter toute la RDC sur son dos.
Réaction, Joseph.
Bien, merci beaucoup, Monsieur Jean. Je voudrais d'abord revenir sur ce que l'honorable Zikouyé, avant de revenir à la question de Monsieur Jean. La délicatesse de l'art de la facilitation demande absolument que celui qui fait ce travail, qui exécute ce travail, dans un consensus fragile, comme ici en République démocratique du Congo, il devrait prendre soin de ces petits gestes, aujourd'hui, qui tentent de couler, n'est-ce pas, cet édifice, n'est-ce pas, de facilitation. Je crois que il lui revenait, lui, en tant que diplomate de carrière, de pouvoir vérifier ou demander l'avis des parties en présence avant, n'est-ce pas, de convoquer la facilitation, de convoquer, n'est-ce pas, les travaux de... Deuxièmement, c'est la responsabilité. C'est ça le sens de responsabilité. On ne peut pas aller au dialogue sans une grande ou une bonne partie, n'est-ce pas, de l'opposition. C'est pour quel résultat? Donc c'est un problème de responsabilité, je ne pense pas que Eden Kodjo, lui qui a d'abord annoncé que le dialogue sans lui d'épaisse n'est pas possible, aujourd'hui, c'est ce qu'il lui avait dit dès le début. Et aujourd'hui, et lui d'épaisse absent de ce dialogue, lui est encore facilité, je crois qu'il va se contredire sur le principe, et en ce moment-là, il va encore beaucoup plus rogner, n'est-ce pas, le sens de responsabilité.
Mais il faut que les travaux commencent quand même.
Il y a ceci, madame. Le dialogue a déjà commencé entre deux blocs. La preuve, c'est que nous avons des résultats. Il y a des prisonniers qui sont sortis, sans que les deux ne puissent se rencontrer. Donc le dialogue a déjà commencé, mais sur le plan formel, n'est-ce pas, il y a encore des couacs. Mais ces couacs, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes en politique, là où chacun, n'est-ce pas, veut tirer les dividendes de son côté. Et en deuxièmement, la stratégie joue entre les deux blocs. La stratégie joue. On veut amener l'autre au 19 septembre, c'est ça le jeu en fait. Et quand on arrive au 19 septembre, on vous dit que non, vous êtes considéré comme persona non grata, et voilà, ainsi de suite, et tout ça. C'est pour arracher, amener la majorité aujourd'hui de négocier à genoux. Et si on arrive au 20 décembre, n'est-ce pas, 2016, amener la majorité de négocier couché. Voilà exactement le jeu ou la stratégie, n'est-ce pas, qu'il y a au niveau de l'opposition. Il appartient maintenant à la majorité de savoir aussi jouer le jeu, voyez-vous. Est-ce qu'il le joue bien? Ça, c'est encore une question. Est-ce qu'il le joue bien en voulant retarder, en faisant toutes sortes de ruses par-ci, par-là et tout ça, en retardant les choses? Je crois que du côté de la majorité, ils veulent aussi placer leur stratégie dans la stratégie de l'opposition. Peut-être. Alors ça, c'est, il faut attendre pour voir.
On a l'impression que cette liste, au lieu de venir décrisper la situation, elle vient plutôt jeter de l'huile sur le feu.
Mais effectivement, elle a jeté de l'huile sur le feu parce qu'aujourd'hui, je sens que les partis se radicalisent davantage. Et ensuite, ça embrigue un tout petit peu le facilitateur, lui aussi, qui est débridé complètement. Et je crois que le décor est très, 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 très mal planté pour pouvoir espérer, n'est-ce pas, une normalisation de la situation très tôt.
Et vous pensez que ça va durer encore longtemps, cette situation?
Ça peut ne pas durer longtemps, tout dépend de la tactique, n'est-ce pas, de la maîtrise et de la subtilité, si vous voulez, du négociateur, du facilitateur. Et ensuite, il y a tout le comité de soutien. Il y a aussi la SENCO qui est en train d'assister la facilitation. Je crois que c'est de leur côté qu'il faut accroître un peu la subtilité dans la manière d'approcher.
Du côté de la SENCO?
Oui, du côté de la SENCO, parce qu'aujourd'hui, Edem Kodjo est persona non grata du côté de l'opposition, donc il ne peut pas faire les contacts facilement. Donc la SENCO est là pour essayer d'établir le contact entre les deux parties.
Alors en conclusion, Joseph, vous allez devoir conclure aussi.
Oui, je voudrais dire que nous sommes arrivés à un moment où c'est la tempête. Il y a des oiseaux de tempête qui doivent jouer le jeu aujourd'hui. Et les oiseaux des grands vents ne savent pas tenir. Je demande à Monsieur Edem Kodjo, je demande à la SENCO, je demande au comité de soutien d'accroître encore. Je crois qu'ils ont la lucidité, ils ont compris, n'est-ce pas, le jeu de l'un de l'autre. Je crois qu'ils ont encore la possibilité de pousser les deux blocs à se mettre d'accord sur même les désaccords et de commencer ce travaux de manière à éviter une chute libre, n'est-ce pas, de la République aux échéances constitutionnelles prochaines.
François, vous nous écoutez votre conclusion.
J'héritais ma compassion vis-à-vis des populations du Nord Kivu qui continuent à souffrir depuis 1994, mais j'appelle à la population congolaise à soutenir les politiques qui veulent du dialogue, parce que ceux qui veulent l'embrasement du Congo veulent la mort des petits citoyens congolais pendant qu'eux, ils savent de quelle manière ils pourront sauver leur peau. Et donc aujourd'hui, allons au dialogue pour le bien du Congo et surtout n'acceptons pas
un dialogue inclusif.
Inclusif, mais pas totalitaire. Et donc, refusons toute stratégie qui tend à compromettre l'économie de notre pays, parce que c'est des richesses du Congo que viendra le bien-être du Congolais.
Merci François Lécuyé, maître Jean-Paul Lumbulumbu.
Nous demandons tout simplement au facilitateur Edem Kodjo de sursoir à ce dialogue avec précipitation qui va nous amener vers un naufrage de la population congolaise. Nous pensons qu'il faut donner un caractère inclusif à ce dialogue en faisant venir les chiffres des pays qui sont à l'extérieur, en faisant libérer les prisonniers politiques et en amenant le dialogue de la manière la plus sereine, celle qui est demandée par l'opposition conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Alors ce soir, alors que c'est vous qui exigez le respect du délai constitutionnel?
Sur soi, parce qu'on ne va pas aller dans un dialogue d'abord médiaire, on ne va pas aller dans un dialogue avec à l'extérieur des leaders comme Boussania Rouissi, comme Moïse Katumbi. Ça, ce n'est pas un dialogue. Ce sont les concertations nationales disent que nous refusons et nous appelons même la population à manifester demain.
Merci, maître Jean-Paul Lumbulumbu. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de dialogue entre Congolais, Guimaté, Berry, Luchaka, sous la supervision de Pelé, Kipela Mondo, qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à Sylvain Matundu, qui était à la prise de son, au micro Kéline Couté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. We'll be right back.